Voilà.
Bravo.
T'as pas à rougir. Tu me fais une pensée de la vie. Je crois que vous nous ennuyez bien longtemps. En tout cas, je suis très heureux d'accueillir donc, Madame Lacache et Monsieur Millot qui se proposent effectivement de nous parler un petit peu de ce personnage extrêmement singulier, absolument passionnant, qui est donc, comment dirais-je, Jean Malaquais, je crois que c'est son prénom.
Oui,
c'est
ça. On va parler
parce que j'étais un peu compliqué. avant de leur céder la parole, je m'excuse aussi auprès de vous, c'est qu'en même moment, nous accueillons ici, dans un local que nous avons au fond, une association qui est une petite d'AMAP. On va être un petit peu dérangé parce que les gens viennent chercher leurs palmiers et légumes. Et bon, ils m'ont promis d'être le plus discret possible. Mais on sera peut-être un petit peu dérangé.
Ça va très bien avec Malaquais.
Je pense aussi. Voilà, je vous cède la parole. Merci.
Bon, bonsoir. Bon, donc je suis Geneviève Nakache. J'ai demandé à Georges Millot de venir avec moi parce que nous avons partagé finalement toute l'expérience malaquaisienne, si je puis dire. On avait fait toutes les recherches sur Jean Malaquais ensemble depuis des années et des années. Et donc ce livre, bon, bien sûr je l'ai signé, mais Georges y a grandement contribué. Et donc on va faire quelque chose à deux voix. Voilà. Alors Jean Malaquais, nous l'avons... redécouvert dans les années, en ce qui me concerne, dans les années 80, Georges après 68, après les événements de 68. Alors, tu peux peut-être raconter dans quelles circonstances.
En 68, il y avait dans les rues de Paris un petit libelle qui circulait, qui s'appelait Le nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel. Et je ne savais pas qui était Aragon. Je ne savais pas qu'il était Malaquais, mais la lecture de ça m'a fait rire autant que peut faire rire un texte de Voltaire, et je me suis dit, Aragon, là, il prend une sacrée dégelée, il doit bien la mériter. Et voilà, j'ai abordé Malaquais par son côté caustique et ironique et son ironie cinglante.
Alors moi, j'avais travaillé sur la peinture de la classe ouvrière dans le roman, et donc j'avais lu Les Javanais de Jean Malaquais, qui a été prix Renaudot en 1939. Mais c'était à l'époque très très difficile, dans les années 80, de se procurer l'ouvrage. On le trouvait sur les quais de la Seine, il se trouve que je suis parisienne, mais c'était très très difficile de trouver les livres de Malaquais. Et puis, dans les années 90, une personne que nous connaissons depuis, qui était très très liée à Malaquais, a décidé d'aller voir un éditeur avec les Javanais, et de le faire à nouveau connaître. C'est comme ça que Malaquais a été republié, réédité aux éditions Phébus à partir des années 90. Bon. Et puis, j'ai lu toute l'œuvre, je me suis dit, il faut absolument le faire connaître. Donc voilà. Et j'ai fait une thèse sur Malaquais, et donc on va vous parler un petit peu du personnage et de l'œuvre. Alors depuis, on a fait une société Jean Malaquais, hein, qui a pour vocation aussi de le faire connaître. La première difficulté que nous avons eue, enfin que j'ai eue, que tu as eue aussi, puisque nous étions ensemble, encore une fois, ça a été de connaître un peu le parcours de Malaquais, puisque Malaquais ne parlait pas de lui. On ne savait même pas, au moment où j'ai démarré ma thèse, je ne savais même pas si Malaquais était encore en vie. Il se trouve qu'il était en vie, puisqu'il est mort en 1998, et que j'ai pu le rencontrer. Mais c'était un personnage qui n'aimait pas parler de lui. Et... en fait, il a fallu vraiment travailler sur des archives, aller en Pologne et l'interroger pour connaître son identité. Donc Malaquais s'appelle Vladimir, Yann Pavel, Israël Pinkus, Malatsky. Et tous les prénoms nous indiquent un petit peu quel est cet homme. Alors Vladimir, donc Malatsky déjà, c'est un nom polonais. Il est né effectivement à Varsovie en 1908. Vladimir, c'est un prénom russe. Bon, vous savez que la Pologne a été sous domination russe, enfin Varsovie a été sous domination russe jusqu'en 1918. Yann Pavel, c'est le prénom polonais. Et puis, on a découvert très tardivement donc, l'autre prénom, Israël Pinkus, qui révèle les origines juives de Malaquais. Parce que lui-même disait qu'il était effectivement issu d'une famille juive, mais non pratiquante, et pour lui, il était important de ne pas se revendiquer de cette judéité dont aujourd'hui beaucoup de gens ont envie de parler, mais qui n'était franchement pas le point, pour Malaquais, le point important. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire de prénom, c'est qu'on voit que très tôt, Malaké va se rendre compte que l'identité, finalement, ça se change, hein, au gré des événements, des rapports de force, hein, de l'histoire. Et c'est intéressant aussi parce qu'on verra que dans son œuvre, la recherche de l'identité, c'est tout de même une constante, et j'y reviendrai. Donc, Malaké est né en 1908 à Varsovie. On ne sait pas trop comment la révolution russe est arrivée dans sa vie. Il avait donc 9 ans, hein, en 1917, mais vous savez que la politisation a été très très forte à ce moment-là, évidemment, et donc dès les années de collège, puis de lycée, parce qu'il est allé au lycée, ce qui était tout de même assez rare, il a dû être porté par cette vague révolutionnaire, par ses idées, etc., d'autant que sa mère était militante du Bund. Alors, le Bund, enfin, elle avait milité au Bund. Le Bund, vous connaissez peut-être, c'était une organisation socialiste, yiddishiste, donc qui voulait faire naître, renaître la culture yiddish, quoi, la langue yiddish, mais qui était résolument anti-sioniste. Et Malaké était tout sauf, justement, nationaliste ou sioniste. Quant à son père, c'était un lettré, c'était un professeur de latin, grec, ce qui prouve que sa famille avait complètement rompu avec le milieu hébraïque, avec le judaïsme, parce que c'était vraiment considéré par les religieux comme être profane que d'enseigner les lettres classiques. Donc Malaké va vivre dans cet environnement, va probablement sympathiser avec les idées socialistes de l'époque. Et puis, en 1925, alors qu'il a 17 ans, il décide de quitter sa famille. Alors là, quand je l'ai interrogé sur les raisons pour lesquelles il est parti, en fait, il ne s'est pas longuement étendu. Il a expliqué qu'il en avait assez de son père, qui était sans arrêt en train de lire, qu'il n'y avait que des livres à la maison, qu'à table, le père lisait, tout le monde devait se taire autour, etc., qu'il ne supportait plus tout ça. Puis surtout, qu'il voulait découvrir le monde. Il avait 17 ans et il voulait connaître le monde. Son expression, c'était « je voulais découvrir le monde avant qu'il ne disparaisse ». Il est disparu. Donc à 17 ans, il va vendre sa collection de timbres et il part pour découvrir l'Europe, pour découvrir le monde. Et il va d'abord en Roumanie, puis ensuite il va traverser l'Europe en crise et il va arriver en France. La France, dans son imagination de jeune homme, c'était le pays, comme il le dira d'ailleurs, le pays de la Révolution française, le pays de la Commune, le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme, etc. Et d'ailleurs, il avait commencé à écrire en langue française dès l'âge de 13 ans. C'était la langue qu'il avait choisie pour s'exprimer. Il avait commencé à écrire des poèmes qui disaient tout son désarroi face au monde. Alors, des poèmes qui s'appelait abîme, précipice, vertige, bon, pour vous dire hein, le rapport qu'il avait au monde, un rapport adolescent, puis il était mal à l'aise dans ce monde-là. Et donc, il part, il découvre le monde, il continue à écrire, à prendre des notes, visiblement, et puis il vient souvent en France, et il s'arrête en France en 1925, où il va faire la rencontre de Marc Chéric. Alors, je crois que tu pourras en dire quelques mots, puisque toi, tu connais assez bien Chéric, je crois, non Chéric. Bon, enfin, peut-être pas tout de suite, peut-être après, je ne sais pas. Et, non, je ne vais pas dans la para, mais je... Bon. Marc Chéric. Donc, Marc Chéric était un militant, qui était anti-stalinien, anti-capitaliste, qui ensuite va rejoindre les groupes d'ultra-gauche, il va même en fonder. Malatsky, donc à l'époque il ne s'appelait pas encore Malaké, Malatsky va être totalement séduit, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas conquis, par les analyses que va lui apporter Marc Chéric. Parce que Malatsky était rebelle, il disait lui-même « je suis né rebelle dans le ventre de ma mère », il cherchait une explication au monde, il était résolument contre le capitalisme, et puis il voyait évoluer l'Union soviétique, il voyait le stalinisme prendre plus d'emprise et étouffer la révolution, alors que cette révolution, pour lui, quand il était jeune, et pendant très longtemps d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie, ça représentait quelque chose, puisque à la fin de sa vie, il nous disait encore « j'aurais voulu mourir dans la révolution russe », donc c'est vous dire. Et donc, Marc Chéric va lui expliquer les raisons pour lesquelles, à son sens, le stalinisme a complètement pourri la révolution, Donc va lui donner une explication du monde qui va satisfaire, si on peut dire, Malaquais, qui va donc devenir un, voilà, jamais militant, mais un compagnon de route, on dira, hein, de ce mouvement ultra-gauche. Et c'est important parce que il va donc avoir de commun avec ses militants un rejet total du nationalisme, du patriotisme. C'est quelque chose qu'on va retrouver absolument partout dans son œuvre. Et c'est d'ailleurs un des rares écrivains français, enfin de langue française, hein, disons, qui, à ce point, va marquer son dégoût des frontières, sa révolte face aux frontières, va montrer à quel point c'est absurde, hein, et c'est cruel, et ce, dans absolument tous ses romans et de toute son œuvre, on peut dire. Donc voilà, 1925, il fait cette rencontre qui est importante. Et puis, il continue à voyager. Alors, il rêve à l'Afrique, ce qu'on retrouve d'ailleurs au début du roman Les Javanais, où on voit un jeune qui parle de l'Afrique, qui dit Tombouctou et Java, et qui rêve à partir de ces mots-là, ces horizons mirobolants. Et c'est un peu Malaquais, ou si c'était lui, c'était son frère, enfin bon, c'est un peu Malaquais qu'on imagine là, adolescent, se disant je vais aller là-bas, en Afrique.
Tu as bourlingué, toi, dit partir, naviguer, voir du pays. Tu sais, l'Afrique, le désert, c'est où Gabès ? Et écoute ça, Tombouctou, Tombouctou. Alors, la gare, moi, tu comprends, il n'y a pas que le chauffage central.
Voilà. Donc, il va s'engager, se faire embaucher pour faire la plonge sur un bateau. Il arrive à Dakar. Bon, enfin, je vais passer sur toutes ces péripéties. Il voyage. Et puis, il n'a plus d'argent, évidemment. Alors, il ne retournera pas en Pologne, ça, il le sait assez tôt. Il ne veut pas retourner en Pologne parce qu'en plus, retourner en Pologne, ça voudrait dire faire son service militaire. Et ça, il n'en est pas question. Et donc, il devient apatride très tôt. Et puis, il prend probablement beaucoup de notes à l'époque, enfin, on imagine, parce que ça, il ne l'a jamais dit. Et il retourne en France assez souvent. Et donc, pour survivre, il se livre à toutes sortes de petits boulots. Alors, il a fait absolument tout ce qu'on peut imaginer. Il a été manœuvre sur des chantiers. Il a été donc, il a fait la plonge sur des bateaux. Il a été artiste de cirque. Enfin, il a fait toutes sortes de travaux, boulot dur ou moins dur. Et il a été comptable. Enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, en 1935, il était en train de décharger des cajots aux Halles. Alors, vous savez, il y avait le marché des Halles, là, dont Zola parle dans le ventre de Paris. Là, mais, hein. Donc, il travaillait là. Quand, un soir, il s'est rendu à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'était une bibliothèque qui était ouverte très, très tard et qui était ouverte aussi à toutes sortes de gens, comme aujourd'hui, d'ailleurs. On n'est pas obligé d'être à l'université pour aller dans cette bibliothèque. Donc, il va à la bibliothèque Sainte-Geneviève, autant pour se chauffer physiquement que... pour se réchauffer aussi moralement, il lit et il tombe sur un numéro de Gide, un numéro de la NRF, dans lequel Gide raconte son désespoir d'être né dans une famille riche, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Donc Malaquais lit ça, et se dit, mais enfin, c'est quand même incroyable ça. Moi, je suis obligé de gagner ma vie à la sueur de mon front. J'en peux plus, et je vois que j'aimerais écrire, et je vois que Gide, le grand Gide, hein, écrit une telle chose, enfin c'est quand même bon. Et donc il se décide d'aller voir Gide pour lui dire tout ce qu'il en pense, en tout cas de lui parler. Donc il demande à parler, il va prendre le téléphone et il dit voilà, j'aurais parlé à monsieur Gide pour lui dire quand même que ça serait une belle affaire d'avoir un prolétaire de plus, un écrivain de moins, c'est ridicule de dire ça. Alors évidemment, au téléphone, on lui répond que M. Gide n'est pas là. Et puis, elle va qu'à cela ne tienne, Malaquais décide d'écrire une lettre à Gide dans laquelle il dit toute son indignation. Or, c'est une époque où Gide était très très proche du Parti communiste, où Gide était donc en phase avec les sentiments sociaux, Il reçoit cette lettre d'un jeune prolétaire, Simeon Malatsky, indigné. Et bien Gilles va répondre à cette lettre, contre toute attente. Hein. Bon, Malatsky avait tout de même laissé une adresse sur l'enveloppe. Il avait laissé une adresse poste restante, rue Cujas, puisqu'à l'époque, il faut voir qu'il dormait dans la rue, il dormait dans des hôtels borgnes. C'était un clochard, hein, presque un clochard, quoi. Et donc, Gilles lui répond et lui dit « Mais enfin, je voulais absolument pas te vexer, je voulais absolument pas te vexer, etc. Camarade. » Et d'ailleurs, revenir sur ce malentendu, voilà, je t'envoie un mandat. Alors, c'était l'équivalent d'un une vingtaine de repas, je crois. Donc Malaquais reçoit le mandat, et alors vous imaginez sa réaction, il est totalement indigné, il prend le mandat, il le déchire en petits morceaux, il réécrit une lettre à Gide en lui disant « Enfin, franchement, c'est pas la charité que j'attendais, qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Et là, Gide sans doute s'est dit « Mais ce bonheur, il a été piqué par la curiosité. En plus, dans cette lettre qu'on n'a pas conservée, dans cette première lettre, Malaquais dit, si on l'a conservée, et Malaquais dit qu'il écrit qu'il voudra avoir de la part de Gide autre chose que de l'argent, qu'il n'est pas là pour faire l'aumône, qu'en fait il voudra avoir des conseils sur le plan littéraire, c'est ça qu'il attendait. Et donc Gide lui répond, et dans cette réponse, Gide lui dit « Écoute, je suis à Paris, viens donc me voir, rue Vaneau. » Voilà. Et donc, c'est inespéré. Malatsky, qui à l'époque, donc c'est en 1935, à 27 ans, va rencontrer le grand Gide, qui était au fait de sa gloire, hein, et qui à l'époque donc avait 68 ans. Alors il paraît que Gide s'était fait beau pour la distance. Bref, il tutoie, il ouvre la porte. Il dit à Malatsky, c'est toi Malatsky. Malatsky, à partir du moment où le tutoyait, répond, c'est toi Gide. Et il parle dans tout Paris, on se demandait quel était ce péteux qui tutoyait, qui se permettait de tutoyer Gide, quoi. C'était quand même quelque chose qu'on ne faisait pas. Et puis, entre les deux hommes va naître une relation amicale. Bon, elle va devenir amicale, mais dans un premier temps, donc Gide va essayer de conseiller Malaquais, qui va lui présenter ses petits manuscrits. C'est assez terrible, d'ailleurs, la correspondance est intéressante, et c'est assez terrible de voir combien Malatsky avait confiance, hein, parce qu'il va soumettre un manuscrit qu'on n'a pas retrouvé, il s'appelle « La rage au ventre », et pour cause, Gide va lui dire « Non, ça va pas du tout ce que tu écris », va faire vraiment une critique assez cinglante du travail de Malaquais. Et du coup, je crois que Malaquais a dû détruire l'ouvrage en se disant « Bon, ça vaut rien. » Mais pose une question qui est quand même pas évidente quand on écrit à Gide. Il lui dit « Mais est-ce que ça vaut le coup que j'écrive ?» Et Gide lui dit « Mais bien sûr, bien sûr. » Et il l'encourage donc à continuer. Il le recommande auprès de directeurs de revue. Et c'est ainsi qu'il met le pied à l'étrier à Malaquais. Donc Malaquais va collaborer à partir de 1936 à un certain nombre de revues. Il va se faire connaître en publiant quelques nouvelles. Une première nouvelle qui n'est pas tout à fait représentative de son œuvre, mais qui l'est déjà un peu, c'est Marianka, puisque c'est une nouvelle qui décrit un pogrom. Et Malaquais disait avoir assisté lui-même à un pogrom quand il avait 11 ans. Son grand-père, lui, avait été victime d'un pogrom. Donc c'est une nouvelle assez dure, où on voit les partisans de Petliura, qui était un sinistre anti-bolchevique ukrainien que vous connaissez peut-être, enfin qui va se livrer vraiment à toutes sortes d'horreurs. Et dans Marianka, il y a cette très belle phrase en ce qui concerne ces hommes, c'est « ils n'avaient d'humain que l'inhumain ». Hein, on voit ce que veut dire l'horreur du pogrom. Puis il publie d'autres nouvelles dans d'autres revues. Alors, les tonalités sont à chaque fois très très différentes. Malaquais n'aimait pas du tout se répéter, et on le sent déjà. À chaque fois, les thèmes changent, et c'est là où on comprend aussi que toute l'expérience qu'il avait engrangée au cours de ses voyages lui a servi pour écrire toutes ces nouvelles. Bon, alors il raconte l'histoire d'un matelot, il raconte... Je vous dis tout ça, pourquoi ? Parce que, en fait, la vie de Malakai est très importante pour éclairer son œuvre. Je ne veux pas faire un commentaire à la Sainte-Beuve, mais pourtant, pour Malakai, c'est vrai que c'est important de voir le lien qu'il y a eu entre cette vie et son œuvre. Et je vous dirai pourquoi à la plus tard. Donc voilà. Et puis Gide lui dit, bon, écoute, si tu veux, je peux t'aider là pendant plusieurs mois. Donc, tu peux partir dans le sud de la France. Je lui donne de l'argent. Et Malakai va se retrouver à Cabri. Alors, c'est un haut lieu gidien, un Cabri. Et il va commencer l'écriture de ce qui sera les Javanais. Donc, il va intituler au départ l'île de Java. Alors, les Javanais, c'est le récit de ces hommes venus des quatre coins du monde, hein, qui vont se retrouver tous ensemble dans une mine de plomb et d'argent qui se situe, alors, dans le roman, à Java, dans la réalité à Vojla, dans la réalité à l'Allon des Morts, puisque Malakai avait travaillé dans cette mine de plomb et d'argent, elle a véritablement existé à l'Allon des Morts, et d'ailleurs, bon, une anecdote, mais la ville de l'Allon des Morts avait décidé de faire de Jean Malakai son citoyen d'honneur. Donc,
ce qui a été fait l'année dernière grâce à la société Jean Malakai, voilà. Il faut le dire.
Voilà.
Donc la médaille a été remise à sa neuf,
à titre
à Elisabeth Malakai.
Voilà. Et donc, les Javanais racontent, c'est un roman polyphonique, on a toutes ces voix, on a tous ces mineurs venus des quatre coins du monde qui se retrouvent, et ça, c'était le cas à l'époque, qui se retrouvent à trimer ensemble. Dans des conditions évidemment d'autant plus difficiles que cette mine est une mine à bout de souffle. La taille se fait un peu n'importe comment, donc il y a un éboulement, il y a des morts, tout ça, ça s'est effectivement passé. Et la grande originalité dans l'écriture de ce livre, c'est que Malakai va donner la parole à chaque personne, chaque mineur, sans privilégier un personnage. On pourrait dire des Javanais que c'est un roman aux multiples personnages principaux. Hein, tant qu'il est vrai que chaque personnage a sa place, s'exprime dans sa langue, et que le Javanais, finalement, c'est ce parler qui est fait de toutes les langues et qui montre qu'une communication est possible entre ces individus, même s'ils ne parlent pas la même langue. Et donc, c'est un véritable champ du monde, hein, parce que il y a cette communication fraternelle, et c'est un point important parce que c'est un point qui souligne l'optimisme aussi de Malakai, hein, contrairement à bien d'autres auteurs qui vont décrire la mine ou décrire, enfin, c'est rare déjà, hein, dans la littérature française de trouver des écrivains qui parlent de la classe ouvrière, mais la plupart du temps quand on parle de la classe ouvrière, on en parle avec misérabilisme, on en parle avec pessimisme, et bien Malakai, lui, en parlera avec bon, disons enthousiasme. Bon, c'est pas non plus, c'est pas d'angélisme, mais il y a une véritable gaieté, hein, qui fait qu'on pourrait rattacher ce livre peut-être à Rabelais. Hein. Même si les critiques ont souvent parlé de l'écriture de Malakai en la comparant à celle de Céline, parce que si vous avez l'occasion de lire, vous verrez, il y a une oralité effectivement dans l'écriture. Hein. Il y a un discours. Qui est diffracté et qui est très oral, et on passe très très vite du narrateur au personnage, à ce que ressent le personnage et ce qu'il voit. Le narrateur est à côté avec ironie et une complicité et un enchevêtrement des voix, hein, qui peut effectivement faire penser par certains endroits, on peut dire, à l'écriture de Céline, par cette oralité, on va dire. Je sais pas si on lit un extrait. En tout cas, Gide va se dire considérablement épaté par les Javanais, et qu'il va lire, par le lyrisme des Javanais. Et donc le livre va paraître en 1939, il va être accepté par De Noël, qui va le publier, et qui va dire bon, à Malakai, Malakai, bien Malakai ne profite jamais, non, faut changer ça, bon, du coup... Malatsky décide de s'appeler Malaquais. Bon. Alors, je dis ça aussi parce que vous voyez qu'il n'y avait pas de recherche identitaire quelconque. Hein. Il n'a pas cherché un nom polonais ou juif ou je ne sais quoi. Hein. Il a pris ce qui sonnait le mieux possible, le plus proche de Malatsky. Bon, bah, hein, Malaki, Malaquais. Et donc, en 1939, naît l'écrivain Jean Malaquais. Je ne sais pas si vous voulez ou pas. Vous voulez qu'on vous lise un extrait ou pas? Oui. Bon, voilà, ça va vous dire. Bon, alors c'est pas le plus gai, évidemment.
L'île de Java s'anime. Des voix filtrent à travers les cloisons disjointes des masures. Des hommes sortent sur le pas de leur porte, l'œil humide, le goût du rêve dans la bouche. Une mélopée d'autrefois s'échappe d'une sorte d'étable flanquée contre le mur à demi écroulé d'une ancienne fonderie. C'est le bateau lavoir. Ainsi nommé pour le bouillonnement de chaudières qui jamais n'y relâche. Une vingtaine d'hommes y logent, chacun son chalet à soi, bien mieux que sur les galères d'antan. 20 hommes qui se comprennent à l'aide d'un parler fait de toutes les langues et qui n'est d'aucune, étant celui de Java. Souvent les tables changent d'hôte, souvent le bateau varie d'équipage, mais, surpeuplé ou non, là-dedans, ça gueule et ça feuille. Quand les Javanais disent qu'il y a réunion au bateau lavoir, c'est que le bateau vire de bord, c'est qu'il gondole et craque aux entournures. Quelques enfants à peine culottés sont à leur jeu de billes. Retour du marché ou de la messe, des Javanaises lavent des oripeaux au pied de la fontaine. Leurs hommes tournent en rond, glaviotent, dérivent, mettent le cap sur l'hélice rivain de Madame Michel à la double pesée. Dimanche, jour d'ennui, jour de cafard qui relève la tête, que faire ? Dans une île de Java, île flottante, île bâtarde, accrochée à la queue du diable. Mais cago en Dios, soliloque le javanais s'il est espingo. Bruskov, il soliloque, yok tuaou duchou. Même mot, même râle-pieux d'une langue à l'autre. Henri Lehoux, unique et véritable français à île de Java, reluque le poster des javanais. Sacré putain de bordel de merde, se console-t-il. Ce sont des choses un peu plus convenables à dire. Elles amènent une bouffée d'air dans le trou d'eau morte. Il frotte ses paupières rougies, va chercher du doigt la chique dans sa bouche, en exprime le jus, la remet dans sa bouche. Le nègre, Hilary Hodge, libre citoyen de la libre Amérique, attaque un blues sur son cornet à piston. Il a sorti ses escarpins pour leur faire prendre le frais. C'est dimanche. Des escarpins vernis qu'il ne chausse plus, qu'il espère chausser un jour. Alors il leur fait prendre le frais sur le rebord de la fenêtre et il attaque un blues lent sur son cornet piston. Il a été cornettiste dans un ensemble de jazz. Il chaussait des vernis. Il portait un smoking blanc à revers cerise. Et maintenant, chut, il perd ses baloches par les accros de son froc. Le Polonais Thomas Warski fait le tour de l'île. Ça y est, Magda, sa femme, est à la maternité d'hier. Et ça y est, elle nous fabrique des jumeaux. Java n'en doute pas, les Varski s'entendent en besogne. Il n'y avait qu'à voir la Magda bâtie sur le devant. Varski fait le tour de l'île. Des femmes s'affairent à ourler des langes. Tu verras le tam-tam, deux franco-javanais tout neufs. Nous les ferons naturaliser à la mairie de Vaugelas. C'est Lehoux qui sera content. Il ne faut désespérer de rien. Henri Lehoux ne sera plus le seul français de France à Java. Et Hilary Hodge, l'américain, mettra peut-être ses vernis. De quoi se plaint-on? C'est dimanche. Le soleil est à son poste, les papillons batifolent dans la lumière oblique, la poussière monte sous les pieds des moutards. Les gendarmes sont passés, ils n'ont arrêté personne. Barbu jusqu'aux gencives, Zacharis Malinov expose au vieux Ponzoni, dit Babo Giuseppe, comment il a pris Nijni Novgorod à lui tout seul. Tout à l'heure, quand Malinov descendra de son cheval circassien, Babo Giuseppe, qui n'en a pas saisi un mot, ira porter la nouvelle aux pierres de la gare. Camo, Al-Boudizian, l'Arménien, vide sa vessie derrière le bateau lavoir. Au bateau lavoir, ça fait boum. On s'y égosille en volatilité. La cheminée de l'ancienne fonderie veille sur le destin de l'île. Des hommes traînent à son ombre. D'autres se gargarisent la glotte à l'épicerie de Madame Michel. L'agronome Belski fignole son potager. Des femmes reviennent de la messe, l'âme sauve et les membres là. C'est dimanche. C'est Java, c'est la Côte d'Azur.
Donc, les Javanais, vous avez entendu tous ces noms. Et 1939, le problème, c'est que c'est pas une bonne année. Et que Malakai, bien qu'apatride, va se faire enrôler de force dans l'armée française, comme il disait. Et donc, il se retrouve dans un régiment de pionniers en août 1939. Et il va vivre en soldat la drôle de guerre. Et c'est du régiment, d'ailleurs, qu'il va apprendre par son éditeur de Noël qu'il a reçu le prix Renaudot. Alors, il n'en revient pas, évidemment. Ses compagnons de chambrée lui demandent ce que c'est. Enfin, on le cherche partout. Il y a une émission de la radio, diffusion nationale qui vient là pour l'interviewer, etc., etc. Lui, de toute façon, il rêve que d'une chose, c'est d'avoir une permission. Il se dit, peut-être que ce prix va me permettre de partir, parce que, encore une fois, la soldatesque, il ne la supporte pas. L'ambiance au régiment, c'est terrible. Et il va finalement très très peu profiter de ce prix. 1939, 1940, 1940, la déroute, il essaye absolument de s'enfuir, lui aussi. Et il s'échappe, il est fait prisonnier, il finit par rentrer à Paris. Et là, il est vraiment en danger. Il est en danger à triple titre. Il était apatride, je vous l'ai dit. Il était d'origine juive. Et puis il était marxiste, ou marxien. Donc il y avait vraiment trois bonnes raisons pour, selon son expression, fertiliser les sillons du Troisième Reich. Et donc il n'avait qu'une seule solution, c'était de s'enfuir. Vous connaissez l'expression de David Rousset qui disait qu'il y avait deux possibilités d'échapper à l'Europe à l'époque, c'était soit Auschwitz, soit Marseille. Bon, il va choisir Marseille. Donc il part à Marseille, il va rejoindre là la cohorte de milliers d'autres réfugiés à Marseille. Et il recherche un bateau qui pourrait lui permettre donc de quitter le continent européen, d'aller, à l'époque, c'était l'Amérique, hein, l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. Alors, à Marseille, il va, pour survivre, parce qu'il y a toujours le problème de la survie alimentaire, hein, évidemment, il va donc travailler dans une entreprise, donc, ce serait très très intéressant d'en parler longtemps, mais on n'a pas le temps, qui s'appelle les Croque-Fruits. Une histoire très particulière, les Croque-Fruits, ça a été une coopérative ouvrière créée par un trotskiste qui s'appelait Sylvain Itkin et qui permettait donc à tous ces gens qui étaient à la recherche d'un travail pour survivre de se faire embaucher. Ils étaient payés à la journée, ce qui était très très bien. Et donc ils avaient une sorte de couverture, ils pouvaient survivre comme ça. Et les Croque-Fruits donc fabriquaient des petites confiseries qui, à l'époque, étaient très appréciées parce qu'on avait faim. Et dans cette coopérative, on était cooptés pour entrer dans cette coopérative. On va avoir des gens comme Francis Lemarque, comme Mouloudji, enfin, toutes sortes de gens qu'on connaît, célèbres, qui vont travailler dans ces Croque-Fruits, qui étaient eux aussi menacés par la période. Donc Malakai va travailler au Croque-Fruit avec un autre militant qui s'appelle Taproboul, vous connaissez peut-être, qui a été un dirigeant du Poum, enfin avec des gens comme ça. Et puis il essaye, comme plein d'autres, de trouver les papiers, les visas, les fameux visas, pour s'enfuir. Et il finit par trouver ces visas, je passe, et en partie grâce à Gilles, oui. Et donc, il quitte Marseille et il arrive d'abord au Venezuela, puis au Mexique, et enfin, il rejoindra les États-Unis. Alors, quand il va se trouver au Venezuela, au Mexique, il va commencer à travailler à son grand roman qui, à notre sens, on peut dire, je partage mon avis, bon, à notre sens, et son chef-d'œuvre qui s'appelle Planète sans visa, nous a apporté, qui est un gros livre. Un gros livre qui raconte, qui décrit en fait la France sous l'occupation, la France à Marseille, où dans ce roman il va resserrer complètement l'époque, c'est-à-dire que les faits dont il est question dans Planète sans visa, ce sont dans la réalité déroulée entre 1940 et 1942, mais pour tendre l'action, le récit, Malaquais va tout situer en 1942. Et donc, il est question de, évidemment, la promulgation des décrets contre les Juifs, il est question de cet étau qui se resserre de plus en plus sur les apatrides, sur les militants, et il est question aussi, ce qui est très rare dans la littérature, parce que, à mon avis, c'est le seul moment où on en parle, il est question de militants internationalistes qui essayent de faire connaître un point de vue qui, à l'époque, était ultra minoritaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas résistants, au sens où ils ne sont pas nationalistes, ils ne sont pas derrière De Gaulle, ils ne sont pas derrière Staline, ils sont des militants contre la guerre, mais désireux de transformer la société en pensant qu'ils peuvent le faire avec aussi les soldats allemands, qui sont finalement de pauvres bougres, peut-être comme eux, avec la classe ouvrière allemande en tout cas, et ils essayent de s'adresser aussi aux Allemands dans le roman, puis ça a été effectif, hein. Il y a eu effectivement un tout petit groupe qui a tenté ce genre de choses, des petits tracts, etc. On fait de la propagande auprès des Allemands à l'époque, parce qu'ils sont internationalistes, parce qu'ils pensent que le moyen de mettre un terme à la guerre, c'est de créer un mouvement tel que, aussi bien en Allemagne qu'en France, les révoltes puissent renverser les régimes. Il ne s'aligne donc pas derrière De Gaulle, il ne s'aligne pas derrière le Parti communiste. Bon. Donc c'est assez rare, hein, de dire ça, parce qu'en général, ce qu'on connaît de la littérature sous l'occupation, ce sont des romans qui sont plutôt pour la résistance, ou alors ouvertement collaborationniste, parce que là j'en parle pas, mais pour la résistance, hein, y compris même les romans de Victor Serge, le dernier, Les Derniers Temps, que vous avez peut-être lu sur Marseille, c'est un roman qui est tout de même en faveur de la résistance. Donc Balakel, là, nous propose un roman qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître dans le champ littéraire français. Et puis, là aussi, il reprend la polyphonie qu'on a eu le plaisir de lire dans Les Javanais. De manière un peu différente, mais on a aussi une centaine de personnages, hein, dans ce roman. C'est une somme, quoi. Une centaine de personnages avec des vies qui s'enchevêtrent, etc. Et bon, il immortalise aussi un personnage que vous connaissez peut-être qui s'appelait Varian Fry, qui a beaucoup fait pour les immigrés à l'époque. Donc Planète sans visa, c'est un très grand roman que Malaquais a écrit au Mexique, dans Venezuela, au Mexique, qui va terminer aux États-Unis. Et en 1947, donc, le roman est publié à Paris. Le problème, c'est que entre-temps, Malaquais a dû écrire le fameux pamphlet contre Aragon. Pourquoi ? Parce que Aragon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a décidé de prendre la main sur... le Parti communiste a décidé de prendre la main sur les lettres françaises. Et je pense que Aragon avait aussi dans l'idée d'attaquer Gide pour plusieurs raisons, parce que Gide donc avait quitté le Parti communiste, on sait comment, avec le retour d'Urs, les retouches, etc. Il allait critiquer les staliniens. Et puis Gide, ça représentait vraiment quelque chose dans les lettres françaises. Et pour Aragon, il fallait se débarrasser de cet individu, enfin en tout cas de sa mémoire. Il était gênant, ce Gide. Donc Aragon va attaquer Gide. Et les épigones, enfin Aragon va couvrir ça, et donc mais Aragon aussi, enfin, de manière très fielleuse, et donc Malaquais va défendre Gide dans un pamphlet qui s'appelle le nommé Louis Aragon, le patriote professionnel. Et c'est très très ennuyeux. Pourquoi ? Parce que en 1947, le Parti communiste a réussi tout de même son OPA, si je peux dire, sur les lettres françaises, en grande partie. Aragon règne, vraiment, c'est le pape des lettres. Et donc, le jury Goncourt a sans doute eu vent du pamphlet de Malaquais. Et donc, il n'est pas question de donner à Planète sans visa le prix Goncourt. Hein, pas question de donner à Malaquais, qui est un individu beaucoup trop sulfureux, hein, ce prix. Surtout que le jury Goncourt était à la recherche là, d'une certaine respectabilité à l'époque. Quoi. Donc, on n'accorde pas le prix, alors que les critiques de l'époque expliquaient tous que c'était Planète sans visa qui aurait dû avoir le prix Goncourt. Malaquais n'a donc pas le prix Goncourt. De toute façon, il ne vivait pas vraiment non plus grâce aux Javanais. Il est obligé de travailler, il retourne aux États-Unis. Et là, il va devenir professeur d'université. Il va vivre en donnant des cours. Et il va aussi vivre en traduisant des ouvrages, notamment le livre de Norman Mailer, qui s'appelle « Les nus et les morts ». Alors, Norman Mailer va devenir un de ses amis. Hein, et... ils vont travailler ensemble, il va traduire cet ouvrage. Je vais te laisser la parole pour la fin. Ça, tu peux ? Allez, je te laisse.
La fin de la vie littéraire, en tout cas de Jean Malaquais, c'est un grand silence. Alors, qui n'a rien de tellement extraordinaire parce que, pour plusieurs raisons, d'abord, il y a des tas d'écrivains qui ont écrit des grands romans et puis qui se sont tués. Hein. Malaquais en fait partie, il a écrit donc les deux romans dont on vient de parler, Les Javanais et Planète sans visa, et puis un dernier qui est un objet complètement étranger à tout, et à Malaquais en particulier. À tel point que c'est une vraie surprise de le lire, ça ne correspond en rien aux deux dont on vient de parler, qui s'appelle Le Gaffeur, The Joker en américain. C'est une histoire à la Kafka, pour vous situer, d'un être qui est en butte à une cité moderne qui espionne tout le monde, qui, on pense à Orwell aussi, qui ne laisse aucune liberté, qui est, là on pense à Sun dans Berlin, qui est à la recherche de gens qui font courir des poèmes, parce qu'il n'y a rien de plus subversif que la poésie. Et donc tout le roman raconte à la première personne l'histoire de Pierre Javelin. Alors la première personne, on vous a dit, Malaquais n'écrivait jamais à la première personne, jamais du point de vue d'un... Là, il n'y a qu'un personnage, Pierre Javelin, qui est poursuivi par l'ensemble de la cité. Parce que, on l'apprend au cours du livre, il a laissé courir des poèmes que la cité juge absolument subversifs. Voilà. Alors donc, c'est toute l'histoire de cet homme qui perd sa maison, qui perd ses biens, qui perd son métier, qui perd sa femme, qui perd tout. Alors, il y a un côté science-fiction. Hein. Il veut téléphoner à sa femme, il l'entend de moins en moins, téléphone, elle s'éloigne. Plus rien. Ensuite, il va chez lui, sa porte s'ouvre, et il y a deux inconnus qui lui disent qu'ils ont toujours habité là. Vous voyez, c'est le style. Là, on sort complètement en plus de réalisme, alors que Malaquais, jusqu'alors, était un écrivain réaliste. Alors, c'est paradoxal, et en fait... Là, je ne vais pas en parler longuement parce que ce serait trop long, mais en fait, c'est un roman parfaitement réaliste, c'est un roman parfaitement politique, absolument pas un conte philosophique. Malaquais s'est dit, je vais leur parler de la société d'aujourd'hui qui ne laisse aucune liberté, qui ne laisse plus place à l'identité personnelle. Dans mes autres romans, j'ai montré comment l'identité personnelle était mise à mal, en particulier dans Planète, les déplacements de population, les foules qui se retrouvent plus, etc. Je vais montrer dans Le Gaffeur ce que ça donne. La cité efface toutes les individualités. Voilà. Alors c'est un livre un peu plus difficile à lire, à mon avis, et je pense que je ne suis pas le seul, mais c'est un grand roman de Malaquais quand même. Donc voilà, il écrit ça, il a écrit aussi une thèse sur Søren Kierkegaard. Alors ça, c'est... Malaquais était un esprit, vous avez compris, un peu ironique, qui n'aimait pas beaucoup... qui n'aimait pas le bluff et tout ça. Et après la guerre, en France, c'était le triomphe de l'existentialisme, Sartre et tout ça. Et tout le monde parlait de Kierkegaard. Personne ne l'avait lu, mais tout le monde en parlait. Moi, je peux en parler aussi, je ne l'ai pas lu. Malaquais, lui, s'est dit, c'est très énervant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme vous et moi, il a appris le danois, pour le lire dans le texte. Voilà, c'est ça, Malaquais. C'est quelqu'un qui... Il est parti au Danemark, il a appris le danois et il a fait une thèse en Sorbonne sur Søren Kierkegaard. Alors là, la thèse, c'est assez difficile à lire, hein, bon, mais voilà, c'était le bonhomme, quoi. Quand il prenait un problème, quand Ça, c'est une chose que Geneviève, qui l'a plus connue, moi aussi je l'ai rencontrée, mais Geneviève l'a plus connue. Malaké était un esprit, quand il prenait un problème, il ne lâchait plus. Il se contentait pas de la superficie, il allait jusqu'au fond des choses. Il a fait ça pour Søren Kierkegaard. Voilà, pour montrer qu'au fond, d'ailleurs, ça aussi, ça devait lui plaire. Søren Kierkegaard, qui est connu comme un grand penseur religieux, était en fait un penseur anti-religieux. Voilà, ça c'est tout Malaké. Bon, voilà, et puis alors, il a épousé sa deuxième femme, qu'il a rencontrée aux États-Unis. Alors, toute la première partie, enfin, il a eu une femme tout au début. Il a ensuite rencontré une peintre qui s'appelait Galie Yurkevitch, une russe, avec laquelle, quand Gino a raconté son exode à travers la France occupée, ben, il était avec Galie. Et il était d'autant plus avec Galie que Malaké, c'était quelqu'un qui avait un caractère impossible, mais une fidélité en amitié et en amour assez impressionnante. Et il aurait tout fait pour sauver quelqu'un qu'il aimait. Et sa préoccupation, et ça c'est clair et net, en traversant la France, c'était « il ne faut pas que Galie meure ». Bien sûr, moi je n'ai pas envie de mourir, mais il ne faut pas que Galie meure. Et il a pris des risques infinis pour sauver Galie à tout prix de l'enfer qui se déchaînait en France. Donc, son histoire avec Galie a duré jusque dans les années 60, et là, en faisant le professeur aux États-Unis, un jour, il était en train de remplacer dans une université où il n'aurait jamais dû être, et puis une étudiante est entrée, qui avait 30 ans de moins que lui, et puis voilà. Et il a dit, elle est entrée dans mon cours, et elle est entrée dans ma vie. Et
donc, elle
n'en est jamais sortie. Voilà. Donc c'est Elisabeth d'Aubert Malaké que nous avons rencontrée, que nous connaissons, qui est maintenant une amie, et qui donc, avec lui... a fait sa vie et ensuite a fait aussi une fille. Voilà, en Malaké, enfin, a eu une fille qui s'appelle Dominique Malaké. Voilà. Et puis, alors, Elisabeth Malaké est devenue une traductrice de très haut niveau dans des organismes internationaux comme l'Organisme du Commerce, l'OMC et tout ça, et donc est allée vivre à Genève. Et Malaké est partie vivre à Genève. Et c'est pas du tout que ça lui plaisait, parce qu'il détestait la Suisse, l'esprit rangé, les objets anti-atomiques dans les cadres, etc. C'est vraiment pas Malaké. Mais bref, il vivait là-bas, au bord du lac Léman. Bon. Et des années se sont passées. Et c'est là que celui dont vous a parlé Geneviève, Jean-Pierre Catherine, est allé le retrouver un jour. Jean-Pierre Catherine, alors Jean-Pierre Catherine, c'est autant citer son nom, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Lui, c'était quelqu'un qui s'était spécialisé sur Norman Mailer. Et donc, comme Norman Mailer avait été traduit par Malaké, et en plus qu'il y avait une amitié qui s'était créée, que Norman Mailer était devenu le parrain de Dominique, la fille de Jean Malaké. Vous voyez, c'est, je vous dis, quand Malaké était l'ami de quelqu'un, ça ne finissait pas. C'était vraiment quelqu'un de très, très extraordinaire de ce point de vue-là. Et donc, Jean-Pierre Catherine y est allé, et a trouvé le Javanais, la vieille édition, il a dit, mais il faudrait rééditer ça, est revenu à Paris. Et donc, a d'abord essayé chez Gallimard, ça n'a pas marché. Et puis ensuite, on lui a dit, bah tiens, pourquoi tu n'irais pas voir Jean-Pierre Sicre, qui sait, il dirige les éditions Phébus, il aime beaucoup la littérature. Jean-Pierre Sicre a été emballé, a dit, ah oui, je veux l'éditer, mais je veux éditer tout. Parce que, bon, Jean-Pierre Sicre, alors là aussi, hommage. Un grand éditeur qui a été viré par les lois de la finance qui maintenant domine l'édition, mais hommage à Jean-Pierre Sicre qui, quand il aimait quelqu'un, un auteur, éditait toute l'œuvre. C'était son principe.
Juste oui. Là-dessus, juste dire un petit mot, c'est que, en fait, juste un petit mot, hein, mais ce livre qui a été réécrit, édité par Phébus, a été totalement réécrit par Malaké. C'est-à-dire que Malaké a réécrit son œuvre. L'ouvrage de 1939 n'a pas grand-chose à voir, pour ainsi dire, n'a presque rien à voir avec celui-ci qui a été réédité en 1995. C'est vous dire, quand Georges dit Malaké était exigeant, très exigeant, oui, moi je le revois en train de lui montrer quelque chose qu'il avait écrit, puis il prenait son stylo et puis il réécrivait tout de suite, quoi. Il barrait, il disait « Ah non, ça c'est mauvais », etc. Donc quand on lui a proposé de rééditer son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son roman, il s'est dit oh non, ça va pas, et il a commencé à tout réécrire. Il ne fallait pas trop lui laisser, parce que sinon, il aurait encore réécrit. Il n'était jamais content de lui, il était toujours très exigeant par rapport à sa propre écriture. Donc, ce sera intéressant, mais ça, on n'a pas pu le faire encore, de comparer on l'a fait en gros, mais de comparer dans le détail, si vous voulez, les deux éditions. Ce qu'on peut dire, c'est que le style a complètement changé. Il y a la même trame, on a toujours nos mineurs, on a toujours la même vie à la Londe des Morts, enfin, alias Vosges-là, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même livre. Ouais. Et de même...
Et après, donc... Nous, on l'a connu au moment où plus personne ne connaissait ce livre-là. Et qu'on a retrouvé par hasard, et qu'on a retrouvé une amie à nous... à laquelle la thèse de Geneviève est dédiée, vous avez quasiment confié la mission de faire rééditer Planète sans visage de Jean Malacat. Mais on ignorait qu'au même moment, quelqu'un, lui, avait entrepris et allait le faire, c'était justement Jean-Pierre Sicre. Et pour cette réédition, Jean Malacat a réécrit une grande partie de Planète sans visage en savant. Moi, je ne dirais pas tout à fait que les Javanais n'ont plus rien à voir. C'est très. Il faut le lire. Et c'est étonnant de voir. Alors là, on a vu des gens, par exemple un metteur en scène du Nord qui a mis en scène les romans de Malacat.
Dominique Sarrazin,
voilà, qui est un grand amateur du langage de Malacat. La première fois qu'il a pris cette édition-là, il a dit ben, c'est pas ça. C'est pas le livre. Je peux vous dire que. Il avait lu l'autre 2 ans auparavant, c'est qu'il a une sacrée oreille. Mais justement, c'est pour ça que ça sera passionnant de faire cette étude, parce qu'il y a à la fois profonde ressemblance et profonde différence. Et vous voyez, comme c'est le même homme à plusieurs années d'intervalle, un écrivain, c'est fascinant. Donc voilà, alors il fait, on arrive à la réédition de Planète sans visa. Et malheureusement, Jean a décidé de. Comme disait Gilles, de tirer l'échelle, et est mort avant d'avoir pu voir le roman réédité, et puis de voir la cérémonie où Norman Mailer a parlé de lui en disant cet homme avait 50 ans d'avance, il est temps de le lire. Voilà, bon, là aussi les amis sont venus, Howard Button, enfin tous les amis qui s'est fait au long de la vie. Malacat était capable de faire rompre des gens avec lui parce qu'il avait un caractère qui ne permettait pas les démesures. Ça a été le cas avec Victor Serge. En revanche, quand il vous attachait, il vous attachait pour toute la vie. Nous, on ne l'a connu qu'un an.
Vous voyez
dans quel état on est. Donc, vous imaginez ceux qui ont eu le bonheur de le connaître plus longuement.
Il vous a attaché.
Voilà. Donc, les romans ont été maintenant largement réédités. Donc, et notre société a été faite pour faire connaître l'auteur, voir les... Son épouse a gardé, alors Malacat gardait ses manuscrits, gardait les articles sur lui, c'est-à-dire là on n'a pas eu un travail de recherche comme quand on cherchait son identité, on avait tout, on en avait trop même. Donc il y a encore une masse de documents, de choses à explorer, et donc ça c'est le but de la société Jean Malacat.
Il y a du travail, donc si vous voulez nous aider,
pour les projets. Voilà. La société www.malacat.org. Voilà, c'est lui.
Voilà. Voilà ce qu'on peut vous dire. On aurait pu dire aussi qu'il a écrit une pièce de théâtre qui a été jouée dans les salons de Madame Rothschild, parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, Malacat était donc marxiste, mais vraiment internationaliste, mais il avait des relations avec des gens qui avaient de l'argent, qui...
Dis donc, quelles circonstances.
Rothschild.
Il a fait que la connaissance d'une des familles les plus riches de France sur le bateau.
Oui, mais c'est pas la Rothschild.
Oui,
ça,
mais les Méniles. Il est entré dans ce monde-là par l'intermédiaire des Méniles et il a connu Jean et Dominique de Méniles sur le bateau qui l'ont mené aux États-Unis.
C'est la famille Schlumberger,
Schlumberger.
Le pétrole. Ouais. Donc il a effectivement dédié Planète sans visa aux Méniles. Les Méniles l'ont probablement aussi aidé financièrement. Bon, les Rothschild l'ont aidé aussi. Et il a joué la courte paille, il a fait jouer la courte paille avec des comédiens de la Comédie française. Donc la courte paille, c'est le prix de la pièce de théâtre. Mais c'est une pièce de théâtre qui raconte la guerre qu'il a écrite à propos de la guerre atomique. Et c'est la lutte entre deux personnages, un qui représente la destruction de masse et l'autre qui représente la destruction individuelle. Voilà, ils essayent de détruire, notamment un savant qui est là. Et donc, il a écrit cette pièce de théâtre. Donc, si vous voulez, je vous dis ça, il a aussi écrit des poèmes pour vous dire que Malakai n'a jamais écrit la même chose. Il s'est essayé absolument dans tous les genres, mais il n'a jamais écrit la même chose. Et de la même manière que quand il avait quelque chose qu'il avait écrit, il voulait que ce soit encore différent, et donc il le réécrivait. C'est un auteur qui est en perpétuel mouvement, on pourrait dire. Et je crois que c'est aussi ce qui caractérise sa vie, et donc son œuvre. Voilà.
Merci beaucoup.
On espère que vous a donné envie de le lire.
Est-ce qu'il y a des écrivains qui sont plus abstraits? Je pense un peu à Pérec avec des trucs très foisonnants, mais j'ai pas lu Planète sans dessin. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont réclamés de lui, ou est-ce qu'il est resté très, très tout seul? Parce que ce que vous nous racontez, à part le soutien de Gide, d'accord, les gens du PC lui. La gueule à moitié, mais par exemple, il y avait quand même très breton, tout ça, donc il était en dehors des
toutes les écoles. Alors là, demain, Julien Bunette organise un colloque sur les irréguliers, et je pense que parmi tous les auteurs dont il va être question, je crois que Malakai a été le plus irrégulier de tous, enfin, le plus indépendant.
Oui, c'est possible, je suis pas là.
Enfin, non, si on ne s'agit pas de décerner une.
Non, mais. C'est vrai que je pense que. Mailer peut-être, a des rapports avec Malakai. Mais après, c'est des gens qui ont des itinéraires très individuels, très personnels, et qui n'ont pas fait école, qui n'ont pas formé de mouvement. Et dont la caractéristique, c'est. Moi, je reconnais tout à fait Gary ou des gens comme ça, c'est de varier complètement, à chaque fois, pratiquement, leur style, leur conception du roman. De passer à la science-fiction. Mais quelqu'un comme Vercors, quelqu'un de. Intéressant, Vercors, parce que.
Les animaux dénaturés.
Voilà, les animaux dénaturés, par exemple, c'est aussi 52 ou 51, c'est le début des années 50.
Ils ont tous été tentés.
Et alors, oui, ils passent. C'est une façon, à mon avis, de chercher aussi, de renouveler, de chercher d'autres façons d'exprimer, d'autres formes de romans, d'autres formes de narratives, de changer de style aussi. Bon, ils font tout ça. Et puis Guillou aussi. Alors, c'est des gens qui ont des itinéraires très différents, mais je pense que Malakai est emblématique de ça aussi. C'est des gens qui. Oui, ils ne cherchent pas à faire école. Et...
Mais peut-être que la différence entre Malakai et ceux qu'on vient de citer, c'est que non seulement il n'a pas cherché à faire école, mais en plus, il n'a pas eu la notoriété qu'il aurait dû avoir. Voilà. Et je pense que c'est en grande partie dû d'abord à son exil, parce que c'est vrai que vivre aux États-Unis se faire connaître en France, c'est difficile. Or, il écrivait en français, son public était ici. Et il avait une certaine notoriété dans les années 39, évidemment, quand il eut pris Renaudot, mais même après-guerre, parce qu'on trouve son nom cité en bonne place dans un certain nombre de journaux dans les années 46, 47, 48. C'est une référence pour un certain nombre de critiques. Bon. Oui, je vais laisser la rapidité. Mais. Donc d'une part, je pense que c'est lié à son exil. Je crois aussi que c'est lié au poids du Parti communiste, comme je l'ai dit, qui fait barrage vraiment sur Malakai, parce que bon. Et je pense que justement l'originalité de Malakai, ça a été ses prises de position politique. C'était pas un homme qui était recommandable, je veux dire. D'une certaine manière, que la société a pu digérer parce qu'il était contre le nationalisme. Et être contre le nationalisme aujourd'hui, c'est finalement être totalement en marge par rapport à tous les courants, et à l'époque, par rapport à tous les courants littéraires. Mais même aujourd'hui, se dire internationaliste aujourd'hui, regardez, c'est qui se dit internationaliste? Il y a très peu de gens qui se disent internationalistes. Dans le champ politique, il y en a très très peu. et puis autour de vous, vous avez des gens qui se disent peut-être très radicaux, mais je vais peut-être choquer des gens ici, c'est pas grave, mais ils vont parler de la France, la belle, la rebelle, mais ils vont parler de la France, par exemple. Bon, Malaquais ne parlait pas de la France, il parlait, voilà, il parlait d'un monde sans frontières, il a parlé de la classe ouvrière immigrée, il a parlé donc, de cette classe ouvrière sans frontières, et il a d'ailleurs Planète sans visage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et Planète sans visa, c'est le titre de l'avant-dernier chapitre de Ma vie de Trotsky. Hein. Et le titre veut bien dire ce qu'il veut dire. Planète sans visa, c'est à la fois l'espoir de voir demain un monde sans visa. C'est pas seulement une planète dans le, qui est une véritable purgatoire. Il est absolument impossible de s'échapper parce que c'était la folie de cette occupation, de cette période. C'est aussi cet espoir d'un monde sans visa. Voilà, c'est un titre ambivalent.
Est-ce que Sans Patrie des Frontières avait déjà été édité?
Alors, Sans Patrie.
Parce que c'est à peu près la même époque, je pense. Je pense que c'était un peu dans l'air du temps.
Est-ce que ça avait été édité Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça avait été édité Sans Patrie des Frontières à l'époque. C'est possible.
Alors il y a aussi un phénomène qui tient quand même un peu plus, pour aller un peu dans ton sens, le caractère de Malaquais. Parce que quand Malaquais, c'était... Il faut vous imaginer le lac Léman, le lac de Genève, pardon, ce petit bonhomme qui d'abord se faisait recevoir la personne qui voulait venir le voir par sa fille ou par sa femme. Et si elle faisait un rapport convenable... Là, on n'a jamais vu de rapport, mais on en est convaincu parce qu'on a vu comment ça fonctionnait. Alors, il le recevait. Et on était reçu par quelqu'un de à la fois extraordinaire, très proche, etc., mais quelqu'un d'extrêmement distant. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes. On a vu quand Geneviève est allée là-bas, il y a eu dans la relation un étonnement qu'à son âge, il puisse encore faire venir quelqu'un beaucoup plus jeune que lui et qu'il lui parle de sa littérature. Il y a eu une vraie coupure. Et comme Malaquais, de lui-même, ne faisait pas les démarches, vous avez vu, pour les Javanais, c'est Jean-Pierre Catherine qui a pris le livre. Tiens, je vais essayer de faire éditer ça. À l'insu de Malaquais. Donc lui ne faisait pas les démarches. Il disait parfois, je suis comme tout le monde, quand il y a une bonne critique sur moi, je ne peux pas dire, mon amour propre. Mais jamais il ne la sollicitait. Voilà. Donc ça aussi, ça explique ce... Il y a à la fois tout ce que dit Gimou, et c'est juste, et puis il y a ce caractère extraordinairement difficile qu'il avait. Il fallait être près de lui pour voir à quel point c'était un homme extraordinaire.
Alors, sur l'absence de démarche, d'ailleurs, Malaquais n'a jamais eu la nationalité française. Il a pourtant combattu du côté de la France pendant la Drôle de Guerre. Hein. Il a été soldat français. Il a pourtant eu un prix Renaudot. Mais bon, il n'a pas fait les démarches qu'il fallait, donc il ne voulait pas demander. Et puis, on ne lui a jamais proposé. Donc, il n'a jamais eu la nationalité française. Il a été naturalisé américain en 1952. Mais il n'a jamais eu la nationalité française.
Alors que... Bon... Lorsqu'il y a de la correspondance, alors chez nous, vraiment, avec Pierre Masson, c'est eux deux à qui on doit la correspondance chez Malaquais, hein, ça faut le dire, ils ont fait un boulot mais invraisemblable, et cette correspondance est magnifique, elle est superbe. On peut ne pas aimer le genre, mais alors lisez-la, c'est un régal. Et moi qui ne connaissais pas Gide, je suis tombé amoureux de Gide. Avant, c'était pas pour moi un écrivain extraordinaire, mais alors, vous lisez ça, bon, moi j'aimais déjà Malaquais, mais j'ai plus aimé encore Gide. Donc vous voyez, c'est un très beau truc. Et Geneviève n'était pas là, il y a eu le prix de la correspondance qui est décerné tous les ans. Donc côté Lutetia, moi qui vais là-bas et que personne ne connaît, et je me retrouve au milieu des gens. Et face à cette correspondance, il n'y avait pas d'autre correspondance de valeur, il y avait un livre, des lettres de Pasternak.
De
Mandelstam. Ce n'était pas une correspondance, c'est quand même lui qui a eu le prix, Mandelstam. Mais moi, que personne ne connaissait, Tétinger est venu me voir, plein de gens sont venus me voir, les maires, les gaullistes, les vieux gaullistes, et ils me disaient, c'est Malaquais qui aurait dû avoir le prix. C'est Malaquais qui a écrit quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, je veux dire, il aurait fait les moindres démarches, même des gens comme ça, qui n'étaient pas de son bord, était prêt littéralement à reconnaître et à l'appuyer. Il ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on l'aime aussi.
Exactement. Il y a quelque chose sur lequel vous êtes parvenu, c'est qu'il a perdu en fait toute sa famille. Sa famille, est-ce que...
Et on ne sait rien là-dessus, en fait. Lui-même a recherché. Il est allé en 1980, c'est en 1980, Solidarność, hein, je crois, c'est ça. Donc il est allé en Pologne, il est allé à Varsovie. Il a recherché les traces de sa famille, et puis il a même recherché la maison où il avait grandi. Bon, alors tout avait changé, bien sûr. Hein. Georges compare Varsovie à la vision qu'on voit dans le pianiste,
oui,
hein,
c'est
le film,
ça,
là, où il est tout rasé, là, bon, voilà. Eh bien, donc là, évidemment, ça avait été reconstruit en 1980, mais à part le nom des rues qui était resté identique, donc il a retrouvé la rue Pavia, la rue où il avait grandi, le nom de la rue, mais les immeubles n'étaient plus du tout les mêmes, donc ça doit faire une bonne impression. Hein. Donc, comme si le passé ne lui appartenait pas, quoi. Donc, il n'a pas retrouvé son logement, le logement qu'il avait connu enfant, évidemment. Et puis, aucune trace de ses parents. Alors, dans le journal du Metek, à un moment, il dit « J'entends parler des atrocités nazies, et j'espère que mes parents sont morts sous les bombes et ne sont pas morts dans les camps. » Mais, bon, on sait rien, enfin, on sait rien. En même temps, alors là, ça a été vraiment une découverte il y a quoi, quelques mois, parce que les archives de Malaquais sont parties aux États-Unis. Donc, juste avant que les archives partent, on a tout regardé, recensé, etc., avec Elisabeth Malaquais, avec sa femme et sa fille. Et on est tombé sur des photos qu'on n'avait jamais vues. Toutes petites photos. Alors, on a trois petites photos de son père. C'est assez émouvant pour nous parce que, bon. Et de sa mère et de son frère. Et il avait un frère auquel il avait l'air de tenir énormément, puisqu'il paraît que dans les derniers jours de son agonie, Malaquais a eu un cancer qui s'est généralisé. Et donc, le dernier jour, les dernières heures, il s'est mis à parler polonais et il a appelé son frère. Le prénom de son frère qui revenait sans arrêt, Maniek, Maniek, Maniek. Or, Maniek, c'est le prénom du personnage qu'on voit au tout début des Javanais. Hein, il s'appelle Maniek, hein, qu'on retrouve à la fin.
Qui est un peu lui, en fait. Qui est un peu lui.
Qui est un peu lui. Si ce n'est, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, parce que oui, c'est un peu lui, évidemment. Qu'on retrouve dans le livre. Alors, il avait un autre prénom de frère, c'était Salomon. Et dans le roman Le Gaffeur, on a un chat, le chat Salomon, qui est un chat philosophique, qui a des allures de philosophe, hein, on peut dire. Et donc, il s'appelle Salomon, comme le frère aussi. Mais voilà. Alors, il a recherché. Il n'a rien retrouvé. Alors nous sommes allés aussi donc à Varsovie, on a cherché des choses, on n'a rien trouvé. Si, ouais, alors vas-y, tu peux raconter.
Non, vas-y, mais c'était trop beau ça.
Oui, bon, bah, vas-y, raconte. Hein.
On est allé, c'est vraiment incroyable, il n'y a plus rien. Donc voilà, il n'y a plus rien. Et on est allé à l'Institut juif, qui est tenu par des jeunes Américains extrêmement sionistes, mais extrêmement dynamiques. Et qui recherchent. Dès qu'ils ont un bout d'identité, ils le font remonter, ils font les arbres, etc. Exactement comme les paléontologues. Et donc, on leur a soumis le problème. On avait soumis à des fonctionnaires polonais. Enfin, vraiment, on a cherché. Et à l'Institut, ils nous ont trouvé un document. Un registre de police sur lequel il y a la mention Marduk
Malaski,
Mordechai, rue Pavia. Professeur indépendant. Et donc voilà, brusquement, on a presque pleuré, évidemment, vous imaginez.
On a retrouvé la trace du père.
On a retrouvé l'assurance que ce père avait bien existé, qu'il avait bien habité à Varsovie, qu'il avait bien habité rue Pavia et qu'il était bien professeur indépendant. Voilà, c'est comme quand vous retrouvez un tout petit détail qui vous fait voir que toute la construction que vous avez fait autour a des chances de... Mais voilà, hein, pour la biographie, là, c'est vraiment ça. Hein, on a un tout petit élément et autour voilà. Des récits, des commentaires, des hypothèses, beaucoup d'hypothèses.
Alors, on a retrouvé, au sein de sa famille, on a retrouvé l'itinéraire de son oncle, l'oncle Armand. Mmh. Alors, dans le journal du Métèque, il parle de l'oncle Armand qui était coiffeur dans le quartier du Marais. Vous savez, à Saint-Paul, il y avait beaucoup de juifs. Je ne sais pas si vous connaissez à Paris ce quartier-là. Et à l'époque, il y avait beaucoup de juifs. Bon. Et donc, il y avait l'oncle Armand qui tenait un salon de coiffure. Et il dit oui, l'oncle Armand, il croit que les juifs vont s'en sortir. L'oncle Armand, vraiment, il ne comprend rien. C'est sûr que Malaquais, lui, il avait une vision politique. Il voyait bien que la situation allait de mal en pis pour les juifs. Mais bon. Et c'est tout ce qu'il dit sur l'oncle Armand. Et puis, l'oncle Armand, Herman, on savait que c'était dans le Marais. Je crois qu'il donne quelques précisions aussi sur les prénoms des enfants de l'oncle Armand. Et avec tout ça, on est allé au mémorial de la Shoah et on a retrouvé un certain Herman. Mmh. Et Herman, eh bien, c'était l'oncle Armand. On a retrouvé la trace du salon de coiffure et d'ailleurs le nom de Herman est sur les murs de la Shoah, etc. Donc pour cette branche-là de la famille, on a des traces parce que alors là, on peut dire que la police française, chapeau, elle a été très zélée. La moindre personne qui était embarquée dans les camps, dans le train, elle avait sa fiche avec prénom, nom, profession, etc. Alors là, on a tout le numéro du convoi, on a tout retrouvé pour cette partie-là qui a vécu en France. Mais en Pologne, ses parents étaient en Pologne. Et je pense qu'on aura. Enfin, on va réessayer, il faudrait qu'on aille à Auschwitz. Le problème, c'est qu'ils avaient des numéros. Hein. Ils avaient les numéros, les gens. Alors, si des parents sont morts à Auschwitz, comment
sur le site de Yad Vashem, ça y est pas.
Non, on n'a rien retrouvé. On a retrouvé une Maletsky Rosenfarb, née Rosenfarb, qui est probablement une parente. On a retrouvé ça. Mais rien pour le moment. Mais bon, peut-être qu'on. Parce que là, il y a des archives. À Varsovie, c'est en train de bouger aussi. Donc, peut-être qu'on peut retrouver des choses. Peut-être. De toute façon, la recherche continue, hein. C'est jamais fini. Bon.
Merci.
Merci
à vous. Ceux qui le souhaitent peuvent rester pour un petit verre rapidement. Et les livres sont. Tous les livres dont il y a des questions ce soir sont disponibles
jusqu'à présent.
Voilà. Merci Georges, merci
Geneviève. Merci beaucoup. Merci à
vous. Comme les gens dans les cafés, ils disent c'est avec plaisir, hein, c'est ça. Alors, attendez, moi j'adore ça. Il y a aux Antilles et à Toulouse. Avec plaisir, c'est trop bon.
À Paris, jamais on a ça. Jamais avec plaisir.
Oui, quand on est libéré.